VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 27 novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, deux personnes ont été tuées hier dans une nouvelle attaque des ADF dans la région de Beni.
RDC toujours, le candidat du Front commun Emmanuel Ramazani Shadary a tenu hier sa première réunion publique à Lubumbashi.
Au Togo, la principale coalition de l'opposition ne présentera pas de candidat aux législatives du 20 décembre.
Les États-Unis ont dénoncé une action illégale après l'arraisonnement la veille de navires ukrainiens par la Russie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, deux personnes ont été tuées hier dans l'Est lors d'une nouvelle attaque présumée des rebelles musulmans ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, dans la région de Beni, et ce, à la veille d'une marche contre la violence. Un porte-parole de l'armée congolaise, le capitaine Mac Azukai, a déclaré hier que les ADF ont tenté de faire incursion dans la périphérie d'Oicha, ajoutant « Nous sommes en train de les repousser ». Ce mardi, les organisations de la société civile de Beni, où sévit par ailleurs une épidémie d'Ebola, ont prévu de manifester contre les violences dans la région, alors que les élections présidentielles et législatives doivent se tenir le 23 décembre.
Concernant ces élections, le candidat du Front commun, Emmanuel Ramazani Shadary, a tenu hier sa première réunion publique à Lubumbashi, capitale du Katanga minier, que se disputent le pouvoir et l'opposition à l'approche des élections du 23 décembre. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Je suis un enfant du Katanga, le Katanga m'a tout donné, a lancé Emmanuel Ramazani Shadary, natif de la province du Maniema, mais qui a fait une partie de ses études à Lubumbashi. Nous sommes rassurés du soutien de l'électorat du Haut-Katanga, se félicite le candidat du Front commun sur son compte Twitter à l'issue de son meeting dans un stade. L'ex-province du Katanga, grande comme l'Espagne, a été redécoupée en quatre provinces en 2015. Ses sols regorgent de richesses minières comme le cuivre et le cobalt. Lubumbashi est aussi l'ancien fief de l'opposant en exil, Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, qui soutient la candidature d'un autre opposant, Martin Fayulu. Samedi, les proches de M. Katumbi ont pu manifester sans heurts à Lubumbashi au nom de la coalition de Lamuka qui soutient Martin Fayulu. L'autre ténor de l'opposition, Félix Tshisekedi, est attendu ce mardi à Kinshasa. Il a obtenu, après une réunion à Nairobi, le soutien de Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale.
Au Togo, la principale coalition de l'opposition ne présentera pas de candidat aux élections législatives du 20 décembre. Elle appelle à de nouvelles manifestations pour dénoncer des irrégularités dans le processus électoral. Morgane Guiriec nous en dit plus.
Par tout moyen, nous ferons en sorte que ces législatives n'aient pas lieu. Nous ne voulons plus jamais d'élections frauduleuses au Togo, a déclaré Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la coalition de l'opposition. Raison de la colère, la Cour constitutionnelle n'a validé aucun des 14 partis membres de la coalition qui est à l'origine des manifestations qui secouent le pays depuis plus d'un an. Nous avons déjà saisi la commission de la CDAO, a ajouté la coordinatrice de la coalition de l'opposition. Cette coalition appelle donc à de nouvelles journées de manifestation, les 29 et 1er décembre. L'opposition exige la recomposition du bureau de la commission électorale, ainsi que la reprise de toutes les activités préparatoires aux élections. La campagne électorale doit démarrer le 4 décembre.
Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré, dont la comparution était attendue depuis le début du procès il y a 9 mois, a catégoriquement nié lundi avoir été le cerveau de la tentative de coup d'État du 16 septembre 2015. Des soldats du régiment de sécurité présidentielle, le RSP, avaient alors tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré, chassé le 31 octobre 2014 par la rue, après 27 ans au pouvoir. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec notre correspondant sur place, Lamine Traoré.
En Somalie, au moins 15 personnes, dont un leader religieux, ont été tuées et 10 blessées hier dans l'attaque d'un lieu de culte soufi par des islamistes radicaux Chebab à Galkayo, dans le sud de la Somalie. L'attaque qui visait Abdi Weli Ali Elmi a eu lieu à l'aube quand les gens vivant dans le centre religieux étaient encore endormis. Elle a été menée par des hommes armés qui ont d'abord fait exploser un véhicule piégé. Ce leader religieux était controversé car il accompagnait les prières de musique, une pratique que certains considèrent comme contraire à l'islam. Il avait aussi été accusé d'avoir insulté le prophète Mohammed, ce qu'il avait nié.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont dénoncé hier une action russe illégale après l'arraisonnement la veille de navires ukrainiens. Washington a réclamé leur restitution à Kiev. Et la représentante permanente américaine à l'ONU, Nikki Haley, a souligné que ce comportement rendait impossible une relation normale avec Moscou lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité demandée par l'Ukraine. Pour sa part, l'ambassadeur adjoint russe, Dmitri Polyansky, a blâmé Kiev et ses partisans occidentaux pour l'escalade actuelle.
La première ministre britannique, Theresa May, a appelé hier des députés très sceptiques de son pays à soutenir l'accord de divorce obtenu la veille avec l'Union européenne. Le point avec Raïssa Girondin.
Theresa May a réaffirmé son absolue certitude qu'il n'y a pas de meilleur accord possible. Elle a appelé les parlementaires à le soutenir au nom de l'intérêt national. Un rejet serait un retour à la case départ qui ouvrirait la porte à plus de divisions et d'incertitudes, a-t-elle ajouté. Dimanche, un sommet européen a scellé l'accord de divorce entre Londres et Bruxelles. Après 17 mois de négociations difficiles, les députés britanniques doivent le ratifier avant leur pause qui commence le 21 décembre. Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste, principal parti d'opposition, a rétorqué que l'accord était un acte d'automutilation nationale et que, selon lui, cette assemblée n'a d'autre choix que de le rejeter. La tâche de Theresa May sera encore plus compliquée. Elle dispose au Parlement d'une courte majorité. Son petit allié nord-irlandais a prévenu qu'il voterait contre à cause du statut spécial accordé à l'Irlande du Nord. Du côté des partisans du Brexit, l'ex-chef de la diplomatie Boris Johnson estime que l'accord est un désastre et une humiliation pour le Royaume-Uni, qui selon lui demeure un État satellite de l'Union européenne. Mais Jeremy Hunt, son successeur aux affaires étrangères, estime que beaucoup de choses peuvent changer dans les deux semaines à venir.
42 migrants ont été arrêtés du côté américain de la frontière avec le Mexique en tentant d'entrer de force aux États-Unis. De son côté, le Mexique a expulsé près de 100 migrants. Le point avec Nanit Talani.
Les migrants arrêtés, en majorité des hommes adultes d'Amérique centrale, font partie d'un groupe d'environ 500 personnes qui ont tenté de franchir la frontière à Tijuana. Ce groupe, qui comptait aussi des femmes et des enfants, participait à une manifestation pacifique avant de se diriger vers la barrière métallique de délimitation pour tenter d'entrer en force aux États-Unis pour demander l'asile. Les forces de sécurité américaines les ont repoussés en usant de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Cependant, de nombreuses personnes ont réussi à traverser sans se faire arrêter, a reconnu Rodney Scott, un responsable américain de la police des frontières. La frontière entre Tijuana et San Diego a été brièvement fermée après cet incident, mais le président Donald Trump a menacé de fermer de façon permanente la frontière terrestre entre le Mexique et les États-Unis. De son côté, le gouvernement mexicain a annoncé hier avoir expulsé 98 migrants qui ont tenté dimanche d'entrer de force aux États-Unis.
Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne du candidat Donald Trump, a enfreint l'accord de plaider coupable avec les procureurs en mentant à la police fédérale. Selon le bureau du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, Monsieur Manafort risque jusqu'à 10 ans de prison pour divers crimes financiers. Il avait accepté de coopérer avec les enquêteurs fédéraux. En échange d'informations vraies et complètes, il pouvait obtenir l'annulation de certaines charges et demander une peine plus légère. L'avocat de M. Manafort dément et soutient que son client a au contraire donné des informations sincères.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et son collègue de la Défense Jim Mattis doivent s'adresser demain au Sénat des États-Unis à propos de l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'a annoncé hier le numéro 2 du Sénat, le républicain John Cornyn. Plusieurs parlementaires américains, dont certains membres du parti du président Donald Trump, rejettent son soutien à l'Arabie saoudite. Ils ont réclamé une riposte plus vigoureuse au meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné le 2 octobre dernier au consulat de son pays à Istanbul, en Turquie. Ils veulent également une réponse plus énergique à la guerre au Yémen, où l'on déplore aujourd'hui l'une des catastrophes humanitaires les plus urgentes du monde.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La République démocratique du Congo a produit 909 000 tonnes de cuivre durant les premiers 9 mois de l'année, soit une augmentation de 8,7%. La production de cobalt a augmenté de 93% avec plus de 115 000 tonnes et celle de l'or de 20% avec 28 064 kg. Comparativement, la Zambie, deuxième producteur de cuivre en Afrique, a produit plus de 630 000 tonnes de cuivre durant les premiers 9 mois de l'année, soit une augmentation de 10,4%. Le Ghana disposera d'ici à 2021 d'une régulation du marché de distribution en gros de l'électricité, selon l'agence Ecofin. Les nouvelles règles permettront de fixer les modalités de fonctionnement de la distribution électrique et de mettre en place des sanctions aux opérateurs qui ne respecteront pas ces dispositions. Ces régulations concerneront entre autres la facturation, les paiements, l'ajustement des paiements dans les cas des retards ainsi que les différents types de pénalités financières. Terminons avec la Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé dans les pays émergents, qui négocie avec le groupe bancaire kényan Cooperative Bank un accord d'un montant de 244 millions de shillings kényans. Cet argent sera destiné à financer la numérisation des services bancaires de CoBank, qui espère ainsi réduire ses coûts et faciliter le service à sa clientèle.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Cameroun et le Nigeria s'affrontent ce soir en demi-finale de la CAN féminine.
Une véritable finale avant la lettre, tant les deux équipes sont grandes favorites de la compétition. Hier, les sélectionneurs étaient en conférence de presse. Le coach camerounais est bien déterminé à remporter ce match. Le moral est haut, l'objectif est d'aller en finale et remporter le trophée, a déclaré Joseph Ndoko. Pour sa part, Thomas Denerbi, l'entraîneur du Nigeria, a reconnu qu'il existe une grande rivalité entre les deux équipes, surtout que le Nigeria gagne souvent, mais les filles savent ce qu'elles ont à faire, a-t-il laissé entendre.
Ligue des champions ce mardi en Europe.
On aura entre autres AS Rome, Real Madrid, un choc entre un leader malade, triple tenant du titre, et la Roma, demi-finaliste de la saison dernière. En jeu, une qualification et une première place du groupe G. S'il y en a un, le vainqueur du duel attendu au stade olympique sera qualifié à coup sûr pour les huitièmes de finale s'il s'impose. Le Real Madrid sera même assuré de la première place du groupe.
Guardiola a prévenu Mahrez.
Mahrez doit bien jouer car Sterling est là et vice-versa, a déclaré l'entraîneur de Manchester City après la victoire des Citizens 4-0 sur le terrain de West Ham en championnat samedi dernier. Souvent titulaire, l'Algérien Riyad Mahrez n'est entré qu'à la 73e minute à la place de Raheem Sterling. Les Citizens affrontent ce soir l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.
Keita Balde, lui, est serein avant le déplacement de l'Inter chez Tottenham.
Nous avons une équipe qui peut aller où nous voulons si nous le voulons tous ensemble. Nous y allons la tête haute, fiers de nous, a lancé l'attaquant sénégalais au micro d'Inter TV. Auteur d'un doublé avec l'Inter Milan ce week-end en Serie A, Keita Balde et son club se rendent en Angleterre demain pour affronter Tottenham à l'occasion de la cinquième journée des matchs de poule de la Ligue des Champions.
Cyclisme, on connaît les nominés pour le prix de meilleur coureur africain 2018.
Ils sont 15 au total, parmi eux le Rwandais Joseph Arirouya, vainqueur de la Tropicale 2017, son compatriote Samuel Mugisha qui a remporté le Tour du Rwanda, l'Ivoirien Issiaka Cissé, dominateur du Tour de son pays. Il y a aussi le Burkinabé Mathias Sorgho, les Algériens Youssef Regigui et Azedine Lagabe. Rendez-vous sur la Tropicale Amissa Bongo 2019 pour connaître le nom du successeur de Luis Mendes, lauréat en 2017. NBA, pour finir, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Charlotte et Milwaukee, 110 à 107. Minnesota et Cleveland 102 à 95, Washington et Houston 135 à 131, San Antonio et Chicago 108 à 107, Boston et la Nouvelle-Orléans 124 à 107, Indiana et Utah 121 à 88.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour, comme promis, sur la comparution hier du général Gilbert Diendéré au procès du coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso. Le bras droit de l'ex-président Blaise Compaoré est considéré comme le principal instigateur de ce putsch qui visait à renverser le régime de la transition. D'entrée de jeu, il a plaidé non coupable. De Ouagadougou, Lamine Traoré.
Je n'ai ni commandité, ni planifié, ni organisé, ni exécuté ce que d'aucuns appellent aujourd'hui coup de force, a déclaré dès l'ouverture du procès ce lundi matin le général Gilbert Diendéré. L'ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré pendant plus de deux décennies ne reconnaît pas les faits d'attentats à la sûreté de l'État, de meurtres, de coups et blessures volontaires et bien d'autres chefs d'inculpation. Et pour sa défense, c'est clair, le général Diendéré n'est pas l'auteur du putsch. Maître Mathieu Sommet, l'un des avocats de Diendéré.
Nulle part dans le dossier d'instruction, il est ressorti clairement qu'il a commandité les événements du 16 septembre. Le juge d'instruction a posé toutes les questions, toutes les personnes qui n'ont pas pu dire qui a commandité. Seulement, il y a un seul qui, le Ménion, qui a fait varier un peu sa déclaration. Donc voilà un point qui sera en discussion lors de la confrontation, certainement.
Je me suis vu obligé de me porter au devant des choses, bien que n'ayant pas moi-même été associé à la préparation. S'est défendu à la barre le général avec assurance et habillé en tenue militaire.
J'avoue que nous sommes un peu déçus.
Marcel Tankwano, leader de la société civile, demande au général Diendéré d'assumer son coup d'État.
Il est pratiquement dans un tohu-bohu parce qu'il avait assumé le coup d'État qu'il a orchestré et qu'il a échoué. Il avait dit qu'il regrettait. Il y a eu perte en vie humaine. Il y a eu des blessés graves. Il regrettait. Il reconnaissait être l'instigateur et qu'il l'assumait. Mais on a l'impression qu'il plaide non coupable. Il rentre dans un dilatoire que personne ne comprend.
C'est pratiquement le même sentiment partagé par les avocats des partis civils, Maître Prosper Farama.
Il est aussi regrettable que le général persiste dans cette lancée de dire oui, c'est d'autres personnes qui m'ont poussé en fait, à assumer un acte aussi grave qu'un coup d'État. Je pense, avec tout le respect que je dois au général, qu'un général, ça n'assume pas simplement un acte sans en savoir les conséquences. Il savait bien ce que c'était qu'un coup d'État et que cela voulait dire qu'à assumer un coup d'État, bon, il reste, moi je pense, à aller jusqu'au bout de la logique et à reconnaître avec qui ils ont commandité et exécuté ce coup d'État. Sinon, nous serions en face d'un coup d'État de fantôme.
Le général Diendéré a chargé l'ancien Premier ministre Isaac Zida en exil au Canada. Pour lui, Zida aura contribué à gâcher le climat au sein du RSP et des autres corps de l'armée. En un mot, ce coup d'État est la résultante d'une transition mal gérée au Burkina Faso. Le putsch a fait une quinzaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
En République centrafricaine, Monseigneur Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui, a visité Alindao. Le 15 novembre, au moins 60 personnes ont été massacrées dans cette ville du centre du pays. De son côté, Nestor Désiré Nongo Azagbia, évêque de Bossangoa, dans l'ouest, a déploré l'inaction des casques bleus pendant les massacres dans cette ville. Pour un témoignage sur ce qui s'est passé à Lindao, Idriss Fall a joint le cardinal Dieudonné Zapalenga de retour à Bangui.
J'ai constaté catastrophe humaine, des pauvres victimes innocents qui étaient dans leur petit cabanon ont été brûlés. Les enfants, les vieillards, tous ceux qui ne pouvaient pas fuir. Nous avons perdu deux têtes. Mais je peux vous dire que la situation humanitaire est catastrophique. 26 000 personnes se retrouvant en bourse dans un petit village où il n'y a pas beaucoup à manger et à boire. Nous avons vu des gens revenus de la bourse et qui ont commencé, les enfants surtout, à vomir. Parce qu'ils ont bu de l'eau souillée. Et nous avons vu aussi des gens qui reviennent famélites. Ils n'ont pas à manger. La situation est catastrophique parce que les humanitaires ne peuvent pas avoir accès à ce village-là. J'ai vu de mes yeux des gens qui grattaient le sol pour rechercher le riz ou encore la nourriture brûlée où il y a encore des petits restes. Les groupes s'accusent en disant que c'est les Balakas qui sont sur le site. Les Félékas disent que c'est eux qui tuent des gens. Ces deux groupes sont les groupes armés. Ils n'ont pas à s'imposer dans la ville, c'est plutôt la MINUSCA. Et la MINUSCA nous a annoncé qu'ils sont en infériorité numérique. Ils ne peuvent pas contrôler ni assurer la sécurité. Et le pire est arrivé. Nous espérons que la communauté internationale, le gouvernement, prendront leurs responsabilités.
Le gouvernement ne contrôle même pas une bonne partie du territoire. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement centrafricain?
Trois quarts du pays ne sont pas contrôlés par le gouvernement. C'est la triste réalité. Le gouvernement, c'est Bangui, mais il y a trois quarts du pays. Ce sont les groupes armés qui contrôlent. Nous avons interpellé le gouvernement en leur disant « C'est à vous de voir avec la communauté internationale comment faire pour protéger les populations. » Le rôle évolue à la MINUSCA, au nom de la communauté internationale, de protéger les civils et des biens.
Mais la MINUSCA a déjà reconnu qu'à Alindao, elle était débordée, elle n'a pu rien faire. Et c'est pareil partout, à Batangafo et à Bambari aussi.
Si vous êtes débordé, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez quand même faire une sommation. Au moins, les gens pourront savoir que vous avez au moins essayé. Mais on n'a même pas essayé. On n'a rien fait. On a vu seulement le déferlement et le goût amer est resté pour les gens.
Est-ce que vous avez appelé à une journée de deuil le 1er décembre qui doit correspondre à des festivités?
Le jour du 1er décembre, jour des festivités, venant de Alindao, le premier vice-président de la conférence épiscopale Monseigneur Nestor, venant de Batangafo, nous avons croisé nos informations. Nous ne pouvons pas être en fête alors que nos frères sont en bourse et on a perdu des êtres chers. Nous avons préféré prendre ce jour-là comme jour de prière, jour de deuil. Et le 2 décembre, nous demandons à tous les chrétiens de mobiliser leurs moyens pour aider nos frères et nos sœurs.
C'était le cardinal Dieudonné Nzapalenga, archevêque de Bangui.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Congo-Brazzaville, les populations se posent des questions sur la suite des missions du Fonds monétaire international, car jusque-là, le pays n'arrive pas à conclure un accord avec les FMI. Elle reste partagée entre déception et espoir, car le Congo renoue avec la croissance économique. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Le FMI est à sa quatrième visite à Brazzaville depuis septembre 2017. À chaque mission, les populations se font elles-mêmes l'écho de ces rencontres.
On se demande pourquoi on ne se confie pas réellement au FMI. Est-ce qu'on protège ces gestionnaires qui ont fait preuve d'une gestion scabreuse? On ne comprend pas. Mais dans les rues, quand on cause, en tout cas, il n'y a pas trop de lueur d'espoir.
Dans les régies financières, les missions du FMI perturbent le fonctionnement normal de l'administration, comme le témoigne ici un directeur des affaires administratives. Financière.
Fort malheureusement, sa présence à Brazzaville permet plutôt de constater que tout se bloque. Plus de paiement de trésor, plus de virement de salaire. Et là, à ce moment, on se dit, est-ce qu'ils viennent pour nous aider ou ils viennent réellement pour bloquer le pays? Les administrations publiques ont du mal à se faire payer. Mais l'argent ne circule pas. Peu même qui a émis un engagement au niveau du budget arrive à se faire payer le plus tôt que possible au niveau du trésor.
Au niveau des fins limiers de la finance congolaise, les analyses sur ces missions du FMI divergent. Clément Mierassa, ancien ministre des Petites et Moyennes Entreprises, donne son point de vue.
Est-ce que ceux qui ont plongé le pays dans cette situation sont capables d'apporter les solutions de sortie à cette crise? Et puis cette incapacité à sortir du pétrole est consciente. Accrochés. Si les effets sont comme le chef de la délégation du Fonds monétaire l'a dit, que c'est lié à la remontée des cours du prix du baril du pétrole, ça veut dire que notre situation, elle est très très fragile.
L'avis de l'analyste économique Alphonse Ndongo montre que malgré l'absence d'un accord d'aide avec le FMI, le Congo a fait plusieurs efforts.
Je crois qu'il est tout à fait normal que les autorités congolaises ne sont plus dans la même situation qu'il y a 2 ans pour essayer donc maintenant d'actualiser la position, les indicateurs économiques du Congo. Et quand vous regardez l'actuel budget, vous avez espoir parce qu'on renoue avec la croissance. En 2019, on nous annonce quand même un taux de croissance qui est au-delà de 3%. C'est déjà important. Je vous apprends qu'en 2016, le taux de croissance du Congo était négatif. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, le FMI qui vient traiter avec nous tienne compte maintenant de cette nouvelle donnée. On ne sera plus quand même dans une position où on doit ingurgiter la potion amère que le FMI aurait dû nous faire ingurgiter il y a 2 ans.
Le Congo court toujours après un accord avec le FMI et son dossier n'est pas dans l'agenda du conseil d'administration de ce mois de décembre. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanoudi Iron Bibi est l'un des hommes les plus forts du monde. Ce colosse burkinabé au sourire timide mange jusqu'à 8 poulets par jour et soulève des troncs d'arbres que d'autres ne peuvent même pas bouger. Iron Bibi souhaite désormais inciter les jeunes de son pays d'origine à réaliser leurs rêves sportifs. Arzuma Compaoré.
Du haut de son 1m90, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, dit Iron Bibi, pèse 180 kilos. Il est aujourd'hui l'un des athlètes les plus forts au monde, un titre dont il est particulièrement fier.
Actuellement, je suis reconnu comme l'un des plus forts quand il s'agit de la force des épaules. Et c'est dur pour quelqu'un de m'arrêter dans cette épreuve.
Sacré champion du monde de levée de tronc après avoir soulevé 213 kilos avec ses épaules, Iron Bibi n'a pas toujours vu son volumineux gabarit comme un atout, surtout quand il était jeune. Lassina Sanou est le père d'Iron Bibi.
Très souvent, les gens de cette corpulence, ils sont violents, ils tapent les enfants. Mais lui, au contraire, il est très gentil, très doux. Ça fait que souvent, les enfants se moquaient de lui.
Aujourd'hui, Bibi inspire d'autres jeunes à poursuivre leurs rêves sportifs.
On avance. Bravo.
Abdou Razak Romba est l'un des jeunes qui s'entraîne avec Iron Bibi.
J'aimerais suivre Iron Bibi, son exemple, pour faire le même parcours que lui.
Avec plusieurs médailles à son actif et un titre dans le livre Guinness des records, Iron Bibi s'entraîne entre 4 et 5 heures par jour, dispose d'une piste de 46 mètres dans son jardin pour le tirage de camions et mange jusqu'à 8 poulets pendant ses 4 repas par jour. L'homme fort gagne sa vie en participant aux compétitions et autres sponsoring et à présent, il veut se servir de son influence pour le bien de son pays d'origine.
Mon principal projet au Burkina Faso, c'est de créer un centre sportif pour tous les athlètes, pas juste dans mon domaine, et aussi pas juste à Bobo-Dioulasso, partout au Burkina Faso. Et aussi mettre en place des compléments alimentaires, parce qu'il y a une carence de protéines ici.
Fort de ses biceps de 63 cm de circonférence, Iron Bibi se prépare pour son prochain défi, battre le record du monde de log lift ou lever de tronc de bois, un test énorme de 228 kilos.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Zeynab Abdelrahman. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.